France Musique.
Très bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous. Allez, il est temps de s'étirer, de bâiller une dernière fois avant d'entrer de plein pied dans Fabrication Maison. Ce matin, dans le portrait, nous recevons Michel Aurier, devenu depuis février, le directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France. Le reportage nous permettra de rencontrer la toute nouvelle génération des contrebassistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Marie Fauché, quant à elle, dans sa chronique, évoquera les rois de France. Et oui, Jean-Yves Pat nous amènera le soleil d'Italie dans ses archives. Et enfin, nous terminerons l'émission avec l'un de vos souvenirs musicaux. Allez, vous nous suivez ?
France Musique.
Bonjour Michel Aurier.
Bonjour Dominique.
Vous avez un titre que j'aime beaucoup. Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France.
Ça fait rêver, hein.
Ça fait rêver. Surtout le mot création.
Oui, c'est vrai.
Comment est-ce que vous le concevez?
En fait, c'est un mot un peu tiroir, le mot création. Parce que au-delà de la direction de la musique, comme Radio France, maintenant, avec ses grandes salles et puis sa volonté de mettre un peu en lumière tout ce qui se fait dans la maison. C'est-à-dire, on sait pas forcément, mais Radio France, c'est le premier employeur de comédiens, par exemple, pour les dramatiques de France Culture.
Bon.
Et puis, tous les jours, il y a beaucoup d'artistes qui passent à travers la maison, de toutes disciplines confondues. Donc, le mot création, ça permet comme ça d'embrasser toutes les disciplines possibles, le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques, etc., etc.
Alors Michel Aurier, il y a quand même quatre très belles formations musicales ici à Radio France, deux orchestres, un chœur, une maîtrise. On va rentrer dans le vif du sujet avec un très beau moment qu'on a passé tous récemment. C'était la production du Tristan et Isolde de l'Orchestre National de France, dirigé par Daniele Gatti.
Thank you.
Michel Auriès, c'était votre premier choix. C'est donc le début du troisième acte, hein, du Tristan et Isolde, qui a été donné par l'Orchestre National de France au Théâtre des Champs-Élysées récemment. Vous vouliez en particulier entendre ce solo de cor anglais?
Oui, parce qu'il est formidable.
Laurent Descaires?
Laurent Descaires est un artiste absolu, qui a un son sublime. Moi, j'ai été très touché par la prestation de l'orchestre sous la baguette de Daniel Legati. D'abord, c'était un moment extrêmement fort, parce que c'est la première fois que Daniel Legati montait Tristan, qu'il avait choisi de le faire avec l'ONF. On sait que c'est un wagnérien magnifique.
Rompu. Oui,
rompu, absolument. Musique. C'est probablement, enfin, à mon humble avis, c'est là-dedans qu'il excelle, vraiment. Mm-hmm. Il est vraiment formidable. Moi, j'adore, par exemple, la version de Kleiber. Et on n'était quand même pas très loin de ça. Mmh. C'est dire si vraiment ça a été une prestation d'une très très grande tenue. Et Laurent, le soliste, c'est bouleversant, cette tension qui est tenue du début à la fin, sur cet air qui est à la fois simple, mais qui, plus c'est simple évidemment, plus c'est difficile à tenir et à interpréter. Non, c'est vraiment un très très grand moment de musique. C'est une expérience musicale, Tristan. Moi, je conseille toujours aux gens qui connaissent pas forcément l'opéra, qui ont peur de s'ennuyer ou de d'écouter plutôt des grandes pages comme ça, parce que c'est finalement ce qui va directement toucher de façon très très forte.
Michel Auriès, donc votre parcours, il passe davantage par le jazz, les musiques du monde, que par la musique classique, non?
Oui, en fait, je suis un peu une éponge à musique. Donc,
c'est bien.
Quand j'étais petit, il n'y avait pas vraiment j'étais pas du tout dans un univers musical, mais j'ai précisément été touché par des, comme ça,
des moments
de façon un peu transcendantale, entre guillemets. En tout cas, je me suis intéressé à plein de choses différentes et je suis venu au classique de façon assez tardive, finalement. Au jazz aussi, d'ailleurs, objectivement. C'est plus, ma génération a plus commencé en écoutant
la pop et du rock.
La pop et du rock, comme tout le monde.
Comme tout le monde. C'est vrai. Ouais. Le jazz, donc, c'est votre deuxième choix musical, un choix qui va tous nous faire fondre, je pense.
Thank you.
Ouais, on est obligé de quitter cette magnifique contrebasse. Allez, désannoncer Michel Aurier, parce que vous les connaissez bien.
Alors, c'est juste dire aux auditeurs que c'est formidable de se réveiller avec Scott Lafaro
à la contrebasse.
En train de terminer son chorus au Village Vanguard avec Bill Evans, Paul Moussian. Voilà, des musiciens merveilleux qui malheureusement nous ont tous quittés aujourd'hui. Mais oui, c'est un grand moment de musique.
Et c'est un moment aussi, je trouve, proche de la radio. On le disait en écoutant le début. C'est un petit peu comme quand la radio pose ses micros quelque part et puis on entend...
Oui, parce qu'on entend le club, ce club qui est mythique, le Village Vanguard, qui est magnifique, qui est une toute petite chose. Moi, la première fois que je suis allé à New York et que je suis allé au Village Vanguard, comme on rentre à l'église, enfin, on rentre dans ce...
La Mecque, oui.
Ouais. Et à l'époque, il était encore vivant, le patron du Village Vanguard, c'est un vieux monsieur avec un cigare, je me souviens. Et non, c'est un tout petit endroit, en fin de compte. Hein. Et quand on pense... Et au-dessus de la scène, je sais pas si c'est toujours, mais il y avait un trou. Parce qu'un jour, Mingus, dans un accès de colère, avait donné un coup de poing dans le plafond. Et il appelait ça le trou de Mingus. Mais c'est formidable, c'est des endroits incroyables.
Oui, et puis il y a quelque chose au niveau du son. C'est vrai que le disque, c'est une chose, hein, mais ces ambiances, ça c'est aussi peut-être une des missions qui est la vôtre. C'est le rapport entre cette musique, comme vous le disiez, qui se joue en permanence à la Maison de la Radio. Il y a un côté incroyablement panoramique de la musique. Quand on se balade dans ce qu'on appelle la petite couronne, qui ouvre sur tous les studios, on entend absolument toutes les musiques.
Oui, toutes les musiques, partout, tout le temps. Il y a toujours des musiciens en train de travailler, de préparer quelque chose, ou de jouer devant le public. Non, c'est formidable, bien sûr. Ouais. C'est ça, précisément, effectivement, vous avez raison. C'est le grand enjeu qui est devant nous, c'est celui-là. C'est que ce soit davantage perceptible par tous les publics possibles. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir toujours venir dans cette maison pour être en contact avec cette sorte de continent musical en mouvement permanent.
Alors, venir dans la maison, c'est une chose, Michel Aurier, mais bon, c'est parisien. On a la chance, quand même, que nos radios soient nationales. Donc il y a aussi peut-être une coordination avec les antennes pour que tous les auditeurs un peu partout en France puissent entendre toutes ces musiques qui sont jouées ici.
Oui, bien sûr, mais sur les 7 chaînes de Radio France, il y a quand même beaucoup quand même beaucoup de musique. France Musique, évidemment, toute la journée, tout le temps. Énormément de moments à picorer comme ça pour pouvoir s'y plonger. Mais au-delà de ça, les quatre formations musicales, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a cette relation à la radio qui nous permet vraiment de diffuser sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a la nécessité quand même pour les formations d'aller jouer vraiment un peu partout pour être le National de France ou le Philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France, la Maîtrise, etc. C'est des choses qui appartiennent à l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est quand même formidable de les entendre à la radio et puis de savoir que tel jour, à telle heure, on peut les découvrir à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Lille ou ailleurs. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans les saisons qui viennent, vraiment de rendre à l'ensemble des territoires les formations de Radio France.
Nos musiciens vont voyager.
Nos musiciens vont voyager, mais ils adorent ça.
Rêvons un peu avec le prélude à l'après-midi d'un faune. Merci Michel Heurier pour cette jolie musique le matin pour sortir du sommeil. Cet extrait du prélude à l'après-midi d'un faune, donc dans la version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck et puis à la flûte
de Magali Monnier.
On a quelques beaux solistes ici à la radio.
Formidable, formidable, elle est formidable Magali, magnifique. Magnifique.
Alors soliste. Michel Heurier, on peut peut-être revenir sur cette question des orchestres. Deux orchestres, un chœur, une maîtrise, ça a fait couler beaucoup d'encre encore récemment.
Il y en avait 17 dans les années 50, hein, je crois, les orchestres de radio. Mais je dis ça parce qu'on a, toujours... il ne faut pas non plus qu'on tombe dans notre excès. La France, c'est un grand pays, un très très grand pays. Il y a 5 orchestres à la BBC, il y en a un peu plus d'une quinzaine en Allemagne, je crois. Alors c'est vrai qu'au Portugal, il y en a un. Le tout est de savoir ce qu'on veut. Alors, nous, on a la chance d'avoir 4 formations musicales avec 2 orchestres de très, très, très haut niveau, parmi les meilleurs du monde. Après, effectivement, il y a des impératifs de gestion qui font que, il faut qu'on ait ce qu'on appelle une nomenclature, c'est-à-dire un effectif de musiciens qui soit tenable, supportable. Hein, ça, c'est vrai, et c'est un sujet.
Mais et puis les répertoires, comment vous répartissez les répertoires entre les deux orchestres? Est-ce que vous n'allez pas... dire à l'un, vous ferez que ça, et l'autre, vous ferez que ça, non?
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, évidemment, il faut que les deux orchestres ne soient pas deux orchestres en compétition, ça n'aurait pas de sens. Mais d'abord, ils ont beaucoup de travail à faire pour nourrir la radio, les antennes. Ça, c'est quand même, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et ensuite, je dis ça parce que cette séparation par les répertoires, elle a été tentée et elle ne marche pas. C'est-à-dire, on peut pas demander à un orchestre de ne jamais jouer du Mahler, de ne jamais faire Beethoven, de ne jamais jouer Bruckner, etc. etc. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire, et c'est ce que Janowski et Chung ont très bien compris au Philharmonique. Et donc, c'est comme ça que l'orchestre a grandi. Par contre, c'est vrai qu'il y a une appétence pour le contemporain au Philharmonique, qui est historique, et qui est vraiment le cœur du métier du Philharmonique, et tant mieux, et c'est très bien. Et puis, la façon de différencier les orchestres, la plus simple et la plus évidente, et celle qui est la plus efficiente, vraiment, c'est de choisir les chefs. Entre Mico Franck, d'un côté, au Philharmonique, et Emmanuel Krivine, qu'on vient de nommer au National de l'autre, on sait qu'on va avoir des répertoires différents. On sait qu'on va avoir une musicalité très différente des deux formations symphoniques de Radio France. Donc, la musique, c'est quelque chose de, finalement, de très pratique aussi, de très pragmatique. Et il faut cette approche-là, je pense, pour qu'on donne du sens à l'ensemble des choses. Évidemment, ça se pense, mais c'est aussi par cette pratique-là qu'on fera des orchestres, deux orchestres aux identités très fortes, mais complètement différentes et forcément complémentaires.
Alors, la Maison de la Radio, c'est aussi une maison qui accueille de grands solistes. Et votre choix suivant, c'est un pianiste qu'on aime beaucoup ici, c'est Till Fellner. Fellner,
ouais.
L'invention numéro 4 de Jean-Sébastien Bach.
Ouais.
Ça, c'est toujours bien.
Oui, c'est toujours très, très bien. Ouais. Puis c'est je ne sais pas comment dire, c'est une écriture, une sorte d'entêtement d'aller au bout de quelque chose. Enfin, après, il faut forcément, fallait passer à autre chose. Quoi. Je crois que Bach a vraiment été au bout de ce truc. Moi, j'adore Bach au piano. Et mes copains baroqueux, c'est toujours des motifs de discussion. Il y a vraiment plein de gens qui considèrent que ça ne devrait pas jouer au piano.
Oh non, mais maintenant on a le droit aux deux, Michel Heurier.
Oui, enfin, chez moi en tout cas, c'est clair. Mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Moi je ne sais pas si c'est Suran qui disait que c'était une preuve de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si c'est une preuve de l'existence de Dieu. En tout cas, c'est une preuve de l'existence de l'homme. Ça, c'est sûr, l'écriture de Bach. C'est impressionnant, vraiment très impressionnant.
Michel Heurier, donc, l'été va commencer. Il y a de grands partenariats, le Festival de Radio France et de Montpellier, il y a le partenariat avec le Festival de Saint-Denis. Vous en pensez quoi de tout ça, Radio France à Montpellier?
Ah ben, c'est très bien. D'abord, cette initiative des années 80 a été formidable, et pour le développement de Montpellier, rappelons-le, et pour Radio France, et pour la musique, et pour tous les publics qui ont eu accès de façon très libre. Il y a énormément de concerts gratuits. Enfin, ça a été un moment de découverte de la musique de façon très populaire. Et ça, je pense que c'est une initiative de René Koering et de Radio France qu'il convient toujours de saluer. Et puis, il y a effectivement, la France est un pays de festival, même si aujourd'hui c'est difficile, parce que les budgets publics sont contraints, parce que les collectivités mettent moins d'argent dans la culture, ce qui est fort dommage. Mais en même temps, ça reste un pays de festival, ça reste un pays qui aime venir à la culture par le biais de cette pratique un peu ludique, festive, ou dans laquelle qui est basée sur la rencontre, la collégialité. Et ça, c'est vraiment formidable. Alors, moi, j'y suis évidemment très, très favorable. Je suis venu à la culture par ça aussi, c'est-à-dire que ma génération, on a été une génération de bâtisseurs de festivals. On a tous, à un moment donné, enfin, je dis on a, c'est mes collègues producteurs culturels, etc., on a tous porté ces moments-là et on y est forcément très attachés. Je crois qu'on peut faire davantage dans les années qui viennent avec nos ensembles sur notre présence dans les grands festivals. En tout cas, moi, je m'y attacherai à faire en sorte que, en France et en Europe, on s'appuie davantage sur les formations musicales de Radio France parce qu'elles sont vraiment en mesure d'apporter le meilleur musicalement aux projets les plus importants qu'on puisse trouver pendant l'été.
Michel Laurier, vous avez dirigé pas mal de maisons de la culture, Amiens, Grenoble. Vous en avez fait des lieux importants pour la vie culturelle française. C'est une grande maison de la culture ici,
c'est
la
vrai,
France.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. La plus grosse de toutes.
Oui, c'est vrai. Non, mais la maison de la culture. Alors après, c'est des débats de politique culturelle. Moi, évidemment, en ayant dirigé deux maisons un peu emblématiques, je suis très attaché à cette partie de l'invention de la politique culturelle. La maison de la culture achevée, c'est le Centre Pompidou. C'est-à-dire ce qui a la logique de Malraux est arrivée à ce projet d'avoir un musée, une bibliothèque, à l'époque un centre de création industrielle, etc. Et entre-temps, on n'a pas suffisamment prêté attention, en 63, à la maison de la radio sur ce plan-là. D'abord parce que c'était l'ORTF, c'est un ensemble de médias, etc., et qu'on n'a pas suffisamment prêté attention à la question des publics qui venaient à l'époque assez régulièrement. Aujourd'hui, la réhabilitation de la maison, sa rénovation au long cours, elle a permis l'émergence de ces deux grandes salles dans la maison, cette traversée qui aujourd'hui existe et qui change quand même complètement.
Une déambulation dans la maison.
Voilà, oui. Qui rend une déambulation possible. L'arrivée prochaine d'une librairie, d'un restaurant, d'un bar, etc., va permettre de redonner beaucoup de convivialité à tout ça. Et c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure, l'ensemble des disciplines présentes dans la maison font que c'est probablement la plus grande maison de la culture de France. On peut à la fois y rencontrer la musique, on en parle, les comédiens, on verra à la rentrée une très belle exposition d'art plastique, puisqu'on va faire intervenir de très beaux et grands artistes de street art sur l'ensemble des vitres de la façade Seine pour la réouverture au mois de septembre. Donc toutes ces choses-là sont présentes dans la maison. Et puis, au-delà de ça, il y a tout ce que les journalistes apportent tous les jours, les experts qui sont invités, les hommes politiques qui y passent, les responsables d'associations, les responsables syndicaux, etc., etc. C'est-à-dire que la société française vibre au quotidien dans cette maison, dans ce qu'elle a de meilleur. Et ça, on peut aussi en rendre compte de façon publique. C'est-à-dire, on peut avoir des débats publics régulièrement, on peut faire des tas de choses comme ça. Et c'est ça l'esprit d'une maison de la culture, en fin de compte. C'est vraiment de rendre compte quotidiennement, d'exposer cette vibration.
Cette vitalité, cette vie.
Oui.
Comme dans la musique. Un extrait du chœur final du Requiem allemand de Johannes Brahms, Selig sind die Toten. L'Orchestre national de France, le chœur de Radio France et la maîtrise étaient placés sous la direction de Daniele Gatti. C'était beau ça, hein, Michel Arrier.
C'est magnifique.
Merci d'être venu nous rejoindre ce matin.
Ben merci à vous.
Notre archive ce matin, c'était un enregistrement déjà ancien qui date de 1994 de la maîtrise de Radio France que dirigeait Denis Dupéis du Golden Vanity de Benjamin Britten dans une adaptation française de Mildred Clary au piano, Nicole Simon-Laroche. Ce matin, dans le reportage de Fabrication Maison, nous allons rencontrer la presque totalité du pupitre des contrebasses de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un pupitre qui a la particularité d'être aux trois quarts, pour ne pas dire aux 9/10, très jeune et depuis peu à l'orchestre. Alors avant de les entendre de vive voix, nous les écoutons jouer une transcription de la célèbre chanson « Diamonds are a girl's best friend ».
Thank you. kiss on the end, maybe quite continental, but diamonds are the girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. I'll hurt you at the automat.
Men grow cold as girls go old,
and we all lose our chance at the end. But square cuts on beach and his rocks don't lose their shed. Diamonds are the girl's best friend.
On va commencer par un premier groupe qu'on va appeler le groupe des anciens. Est-ce que vous voulez bien vous présenter les uns et les autres ?
Alors bonjour, moi je suis Étienne Durantel, 26 ans.
Bonjour, je suis Yann Dubost, je suis le doyen aujourd'hui, je crois, 33 ans.
Doyen, 33 ans, ça va ?
Moi c'est Marie Van Huisberg, j'ai 28 ans.
Bonjour, c'est Édouard Macaré, j'ai 26 ans.
Alors depuis combien de temps est-ce que vous êtes entré à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, tous les quatre ?
Alors la date, je crois que c'était quoi, le 22 novembre 2011.
Date historique dont il faut se souvenir.
Exactement.
Vous avez donc passé un concours.
Oui.
Alors c'est assez étonnant quand même qu'un pupitre entier comme ça soit renouvelé depuis 4 ans. En général, ça se fait de façon un peu progressive. Qui manque-t-il d'ailleurs ?
Alors il manque Daniel Bonne, qui est survivant de l'orchestre de chambre de Radio France.
Ah oui.
Un vrai ancien.
Et Christophe Dino.
Et alors avec Daniel Bonne, vous parlez un petit peu de l'histoire de l'orchestre ?
Ah bah oui, bien sûr. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on a tous connu, là, tous les quatre, l'équipe, parce qu'on est arrivé il y a 4-5 ans. Et donc, il y avait la moitié du pupitre, à peu près. On a connu pas mal d'anciens.
Et donc, ce sont des gens qui, finalement, ont servi de transition entre l'orchestre philharmonique d'avant et celui d'aujourd'hui.
On a eu la chance, oui, de pouvoir jouer avec eux, qu'ils nous transmettent ce qu'ils aimaient dans l'orchestre. Et puis, on a pu faire bouger aussi
les choses. Ce qu'ils
n'aimaient
pas aussi.
Oui. C'est vrai que c'était très court comme transition. C'est assez rare et c'est à la fois aussi des joies de l'orchestre de jouer, de partager des générations.
Le
changement de génération était ultra rapide parce qu'ils avaient tous le même âge. En fait, ils étaient comme nous il y a 40 ans. Ils étaient tous au conservatoire ensemble et ils sont tous rentrés à l'orchestre en même temps. Quoi.
Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de l'orchestre ? Vous avez le sentiment qu'ils vous ont raconté du son peut-être de cet orchestre ?
Bah déjà l'état d'esprit, je trouve très humain, on va dire, vraiment dans la fraternité, voilà, on rigole, on est rigoureux en même temps, donc ça c'était vraiment très important. Et puis sur certaines symphonies ou certaines œuvres, leurs petits trucs, les choses qui sont passées, les petits moments anticipés pour pas se tromper, des choses comme ça, quoi, l'expérience en fait. Eux, ils nous ont apporté l'expérience et dans un sens. Peut-être que nous, on leur a apporté sur la fin de leur carrière, je dirais, la tonicité, la vivacité. Il y a eu vraiment un échange et c'était assez, assez fort comme moment.
Il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils ont eu peur d'avoir cette transition avec des plus jeunes, pas savoir s'imposer ou savoir comment cohabiter. Et finalement, ils étaient tous très heureux d'avoir vécu cette période avec l'espèce d'esprit dynamique jeune avec leur savoir et on s'est très bien entendu. Donc je crois qu'ils étaient tous très heureux.
Donc vous avez l'impression que vous êtes arrivé, donc cette arrivée en masse, ça vous a permis vous aussi d'apporter sur le plan sonore quelque chose ?
Complètement, surtout qu'on vient à chacun d'univers très différents, on a chacun des professeurs différents.
Les expériences sont différentes et le but c'est de se retrouver sur une sonorité, mais c'est pareil entre le pupitre de violoncelle et le pupitre de contrebasse, il faut se retrouver sur une sonorité. Ça vient et de l'attitude d'ouverture, de vouloir aller vers l'autre, et puis de références communes, de goûts communs, c'est sur le long terme aussi, hein, c'est travail avec le directeur musical, etc.
Vous avez peut-être aussi... était un petit peu supplémentaire, comme on dit, non, quelquefois.
Moi, j'ai même fait l'Académie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Étienne Durantel, c'est quoi cette Académie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France?
Eh ben, c'est un concours qu'on peut faire quand on est élève au CNSM à Paris.
Au Conservatoire National de Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Tout à fait. Et donc, du coup, ça nous permet de faire 4 séries dans l'année avec le pupitre.
Voilà. Vous, ça vous intéresse en tant que musicien parce que ça vous fait progresser?
Ça nous fait progresser, ça nous montre ce que c'est que le métier d'orchestre. Ça nous met un petit pied dans l'orchestre pour venir éventuellement après cachetonner, ça nous fait connaître.
Il est dur le concours?
De l'Académie?
Non,
de l'orchestre. C'est extrêmement difficile pour tout le monde, déjà pour le jury aussi et pour les candidats qui jouent un peu leur vie sur une seule journée et au final il faut être performant ce jour-là. Du coup, tous les quatre, on a fait aussi partie du jury du concours de l'édition d'après. Et c'est aussi une épreuve parce qu'on se rend compte de l'importance qu'on a. Et on se rend compte aussi de choses qu'on peut croire en tant que candidat qui ne sont pas forcément vraies de l'autre côté. On a juste une envie, c'est que les gens soient détendus et jouent le mieux qu'ils peuvent. Et souvent, de l'autre côté, on est complètement stressé. Il faudrait humaniser ces concours, ce serait une bonne idée.
Alors, Marie, donc, vous avez fait partie du jury qui a fait entrer à l'orchestre Lorraine, Boris et Lucas.
C'est ça.
Alors, on les accueille à cette table, d'accord? Alors, la jeune génération, vous vous présentez, vous aussi?
Oui, alors Boris, 25 ans.
Boris Trouchot.
Oui, Boris Trouchot.
Voilà.
Lucas Henry, 25 ans.
Et Lorraine Campé, 18 ans.
Oui, bientôt 19, Lorraine. Ouais,
bientôt 19, la semaine prochaine.
Donc, Lorraine, c'est vous la plus jeune de l'orchestre, je crois. Alors donc, vous avez passé ce concours pour devenir musicien d'orchestre. C'était, j'imagine, la contrebasse. On n'imagine pas sa vie autrement que musicien d'orchestre. Si. Boris.
Oui, si, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai
la contrebasse solo, c'est plus compliqué que, par exemple, le violon solo.
Ah, alors vous parlez du classique, par exemple.
Ah bah, je parle du classique parce que vous êtes dans un orchestre classique.
Oui, en effet.
Vous a vu, Boris, on vous a entendu dans l'une des pièces. Vous jouez autre chose que du classique.
Effectivement, c'est-à-dire que c'est l'intérêt de la contrebasse, c'est beaucoup de jouer en orchestre.
Mais pas que.
Mais ouais, il y a énormément de contrebassistes, enfin pas énormément, mais certains contrebassistes arrivent à faire une carrière en musique contemporaine où ils sont chambristes et ça leur convient, c'est leur voix. Ouais.
Et est-ce que certains glissent vers le jazz?
Oula. on espère pouvoir considérer qu'on glisse tous. Disons que les deux esthétiques sont largement complémentaires. Et donc on peut très bien, et c'est notre cas pour la plupart, être musicien d'orchestre et pratiquer... aussi la musique dite jazz et même plein d'autres musiques aussi, musique traditionnelle dont les limites sont pas si évidentes et c'est tant mieux d'ailleurs.
Et sont des techniques de jeu très différentes?
Oui, un des intérêts de la contrebasse c'est effectivement que ça permet de toucher à tous les genres, tous les styles.
Vous êtes tous donc assez jeunes, j'imagine que tous ces répertoires d'orchestre, même si vous en connaissiez certains, c'est quand même une littérature à avaler en permanence, non?
Et même tout particulièrement dans cet orchestre qui a une mission assez large en matière de répertoire. Et donc ça nous permet particulièrement de découvrir à la fois plein de compositeurs, plein d'esthétiques, plein de périodes. Tout particulièrement dans cet orchestre philharmonique dont c'est la principale mission, me semble-t-il, si j'ai bien compris.
Par exemple, on vous entend tout de suite dans un arrangement pour 7 contrebasses de l'Alborada del Gracioso de Maurice Ravel. Thank you. Lucas, c'est vous qui faites des transcriptions?
Oui, c'est moi qui fais celle-ci, en tout cas, pour l'instant. En fait, moi, j'ai eu la chance aussi d'étudier l'écriture, donc l'harmonie, le contrepoint, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup de me plonger à la fois dans ce répertoire dont on parlait tout à l'heure, donc par exemple le Ravel, pour le rendre plus accessible, disons, pouvoir le jouer à 7, par exemple. Donc ça me permet, moi, à la fois de m'instruire, parce que je suis obligé de mettre bien le nez dans la partition, et donc après, de chercher comment l'adapter à un ensemble de 7 contrebasses, ce qui n'est pas évident,
non.
Sans trahir l'œuvre. Du coup, là,
je trouve ça assez réussi.
Bon, bah, tant mieux.
Ouais. Et vous?
Ah bah, nous aussi.
Vous avez de la chance d'avoir un contrebassiste parmi vous qui, en plus, est transcripteur.
Il y a énormément de chance. Puis c'est pas n'importe quel transcripteur.
Allez, Lorraine. Et alors, ça tombe bien parce que je crois que vous avez monté un ensemble. C'est une réalité, c'est cette contrebasse.
C'était un peu la pièce test, en fait. Justement, voir est-ce que c'est viable. D'ailleurs, les auditeurs peuvent maintenant avoir leur avis.
Ils pourront
nous le transmettre.
Quelques
voilà, est-ce que cette formation est viable? Parce que forcément, ça a évidemment plein d'avantages, mais quelques inconvénients. En matière de registre, notamment, évidemment, comme c'est un instrument qui ne monte pas très très haut, même s'il monte plus haut qu'on le pense parfois, mais par exemple la mélodie est partie importante de la musique, voilà, le fait de tout être dans le grave, c'est parfois compliqué, donc c'est ça qui est intéressant comme challenge en tant qu'arrangeur par exemple. Et après il y a aussi l'esprit d'une œuvre d'orchestre par exemple, l'intérêt d'une œuvre d'orchestre c'est les différents plans sonores entre les pupitres, voilà, les bois, des percussions, des vents, des cordes, comment retranscrire ça avec cette fois le même instrument. Donc on a la chance d'avoir plein de modes de jeu à notre disposition, plusieurs sortes de beats,
et puis la percussion,
les percussions,
vous utilisez pas mal.
Voilà.
Ouais.
Il y a aussi, après, la possibilité, là, c'est ce qu'on a fait pour le Ravel, de profiter d'être en plus petit effectif pour faire rentrer une part d'improvisation, en tout cas, se rapprocher plus de l'esprit de musique traditionnelle dont elle est ici et qui est parfois compliquée à...
Musique espagnole, ça vous a inspiré.
En l'occurrence, voilà, c'est évident que Ravel était très attaché à cette musique traditionnelle espagnole, puisqu'en plus, il n'y a pas que Alborada qui en témoigne. Mais à l'orchestre, c'est compliqué à Sand, déjà, de jouer sans chef, par exemple. Voilà,
et alors, c'est un vrai projet, Marie, ces 7 contrebassistes ensemble.
Voilà, on a concrétisé cet ensemble pour le concours de cordes d'Épernay. L'édition de cette année sera 2-3 décembre et donc nous allons faire le concert de clôture de ce concours qui sera exclusivement dédié à la contrebasse.
Bah, du coup, c'était le but avec cet ensemble, de ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, de pouvoir réunir nos diverses influences, donc l'orchestre, Ravel, et aussi le jazz, la musique traditionnelle, donc on en a parlé.
Eh bien, très bien, merci à vous 7. Alors, je redis vos noms, Lorraine Campet, Boris Trouchot, Marie Van Winsberg, Étienne Durantel, Édouard Macarez, Lucas Henry et Yann Dubost. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Dagobert m'intéresse ce matin, Dominique, parce que c'est à lui que l'on doit d'avoir fondé une abbaye à Saint-Denis.
En effet.
Abbaye qui deviendra l'actuelle basilique et il est aussi le premier roi à y avoir été enterré.
Donc Marie, ce matin, vous nous parlez de la basilique de Saint-Denis.
Et oui, au prétexte du festival qui s'y déroule en ce moment même, j'avais envie de remonter le fil des musiques qui ont pu résonner dans ce haut lieu d'histoire, puisque je pense que je n'apprends rien à personne en rappelant que c'est là qu'ont été inhumées la plus grande majorité des rois de France depuis Dagobert, justement. Et au fond, ce parcours musical est celui de l'histoire de la musique occidentale. Alors, c'est évidemment surtout des requiems, des messes des morts qui ont vibré dans la basilique. Les sacres de rois avaient lieu, eux, à la cathédrale de Reims. À Saint-Denis, il y a une exception, c'est Pépin le Bref qui est sacré en 754 à l'abbaye royale. Le pape lui-même prononce le sacrement, en présence notamment de son fils Charlemagne. Le chant messin du 8e siècle, reconstitué ici par Marcel Pérez et l'ensemble Organum. La notation musicale n'existait pas encore à ce moment-là, et c'était pure transmission orale. Et c'est Pépin le Bref qui a accordé à la musique un rôle tout politique, puisqu'il a voulu unifier le peuple franc grâce au chant. Qu'un seul et même chant soit donné aux offices de tout le royaume. Alors on saute quelques siècles.
Le héros d'armes trian. Le Ruiz est mort. Le Ruiz est mort.
Et nous voilà en 1610, en la basilique de Saint-Denis, on enterre le roi Henri IV. La missa pro defunctis d'Eustache du Corroy résonne dans l'église et ce requiem devient à partir de ce jour et jusqu'à la Révolution, le requiem officiel des rois de France. Un extrait de la Missa Pro Defunctis de Eustache du Corroy par l'ensemble Douce Mémoire que dirige Denis Raisin d'Adre. On célèbre les rois à Saint-Denis, on célèbre aussi les reines. Voici un extrait du De Profundis de Charpentier, interprété le 10 août 1683 à la basilique de Saint-Denis pour l'enterrement de la reine Marie-Thérèse. C'est le concert spirituel mené par Hervé Niquet qui interprétait ce De Profundis de Marc-Antoine Charpentier, chanté pour l'enterrement de la reine Marie-Thérèse.
Un autre De Profundis, celui de Michel de Lalande, donné pour l'inhumation du roi Louis XIV, 32 ans plus tard. La mort de Louis XIV donna lieu à des cérémonies dans tout le royaume. L'enterrement à la basilique de Saint-Denis a eu lieu le 23 octobre 1715. Mais le cortège funèbre quitta Versailles le 9 septembre, 40 jours donc, 40 jours d'office perpétuel et ponctué trois fois par jour par le glas du trépas du roi. À Saint-Denis, le 23 octobre, toute la cour est réunie. La musique de la chapelle royale et celle de la chambre du roi étaient dirigées par Michel de Lalande lui-même.
Thank you.
Et c'est Alfred Deller qui est à la direction de l'orchestre de chambre du Wiener Staatsoper et du chœur de chambre de Vienne dans ce De Profundis de Michel Delalande.
Et après tous ces requiem et autres motets pour les morts, rendez-vous à la basilique de Saint-Denis les 23 et 24 juin à 20h30 pour entendre l'hymne à la joie.
Ah, ça nous va de réjouir, ça va changer.
Et ce sera avec l'Orchestre National de France et le chœur de Radio France dirigé par Michele Mariotti.
Merci Marie Fauché.
Merci Dominique.
Agenda. Demain dimanche, au Châtelet à Paris, ne manquez pas le rendez-vous de Quai numéro 5. L'ensemble réuni autour de quelques musiciens du National et qui signent d'ailleurs la musique de notre générique. Ils sont au Théâtre du Châtelet à 11h pour proposer aux plus jeunes et à leurs parents un spectacle de musique presque classique, arrangé par Stéphane Legereau, contrebasse à l'ONF. Avec la complicité du clown Jean-Luc Prévost et de la magicienne Isadora Le Chaplin, ils revisitent les versions originales de la musique classique. Quai numéro 5, ce sont Jean-Marc Philips Verjabédian au violon, Stéphane Legereau à la contrebasse, Rémi Poulakis à l'accordéon, Romain Descharmes au piano et François Desforges aux percussions. Ils sont donc au Châtelet à Paris demain à 11h. Décidément, ils sont pleins d'initiatives, ces musiciens. Cette fois-ci, c'est le clarinettiste Bruno Bonansea, qui a quitté l'Orchestre National de France pour le Philharmonique de Rotterdam, qui lance un festival, les Échappées Musicales du Médoc, qui, comme son nom l'indique, se déroulera dans les très belles églises de la Pointe du Médoc, du 27 au 31 juillet. Cela vous laisse amplement le temps de réserver pour l'une des très belles soirées de musique de chambre prévues, après avoir consulté tout le programme sur leur site. lesechappeesmusicales.fr. Et puis mardi 21 juin, venez fêter les amateurs avec nous ici à la Maison de la Radio et avec Viva l'Orchestra, le grand orchestre des amateurs réuni par l'Orchestre National de France et notre très chère collègue Marie Fauché que vous connaissez bien. Ils sont 123 à avoir travaillé cette année avec les musiciens de l'Orchestre National et ils reviennent jouer un programme consacré à l'Amérique. Copland, Gershwin, Barber, Cage, Dvorak, Williams et Herman sous la baguette de Christophe Mangou. C'est mardi 21 juin à 19h au studio 104.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Je devrais plutôt dire bonjour Tintin ce matin, parce que vous êtes un petit peu transformé en journaliste. La Houpette, le petit chien là qui est sage,
oui, bah
dans le studio. Donc vous êtes allé questionner l'archive, mais alors pas l'archive sonore, l'archive instrumentale.
L'archive vivante, c'est-à-dire ces instruments qui nous viennent du passé, qui sont joués d'une manière très très respectueuse et qui en quelque sorte nous donnent l'écho de ce que l'on pouvait entendre au 19e siècle quand Paris par exemple était appelé Pianopolis.
Alors, ça n'est pas à Paris que vous êtes allé, mais en Italie.
Oui, dans un endroit difficile. Mon Dieu, c'est Verbania, c'est vers les îles Borromée, au bord du lac Majeur.
Difficile comme endroit.
C'était difficile parce qu'il pleuvait.
Ah,
voilà. Mais sinon, je dois dire que c'est assez charmant comme séjour. Alors, j'ai glané plein d'informations extrêmement intéressantes sur ce festival tout neuf qui s'appelle les Nuits romantiques de Verbania et qui propose donc, comme vous le disiez à l'instant, de faire entendre chaque année des pianos différents qui racontent une histoire différente, une histoire de musique, bien entendu, une histoire de compositeur et une histoire de goût aussi. Alors je vous propose tout de suite de retrouver Pier Paolo Datrino, qui est le fondateur de ce festival et qui lui a carrément attrapé une maladie terrible, c'est la pianolite aiguë.
En 2008,
j'ai reçu la partie meuble d'un pleyel ayant appartenu à Paolo Buzzi.
Un
ami de Marinetti, le fondateur du futurisme.
Et lì mi sono veramente appassionato.
Je me suis passionné pour la partie mécanique de cet instrument.
Et puis,
philologiquement, je l'ai restauré.
Et da lì ho cominciato.
C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au pianoforte, que j'ai cherché en France et en Italie aussi.
Ho cominciato a metterli a posto.
Et puis je me suis rendu compte.
Que
ça ne m'intéressait pas du tout de les revendre ensuite. Je me suis attaché à eux comme à des personnalités, des caractères très différents. Et j'avais envie de les partager, de faire sentir. Et c'est plus intéressant de faire ainsi que de les mettre dans une belle demeure. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de créer une association.
Que ces pianos qui sont souvent considérés comme des vieux pianos peuvent redevenir aujourd'hui des instruments de concert et qu'il y a du monde qui vient.
On doit rechercher l'approche juste. Ces pianos sont des pianos qui ont la nécessité d'être joués, pas avec une approche générale ou généraliste, mais avec une approche qui est spécifique, pas seulement pour l'époque, pour le compositeur, pour la composition, mais aussi pour la géographie du musicien. À Londres, Erard est très différent qu'Erard à Paris. Mais aussi Pleyel, et c'est tout parisien comme philosophie. Alors, on doit étudier la possibilité de réaliser la partition à travers la précision d'une approche qui est très lié, pas seulement du pianiste, mais surtout du piano.
Voilà, celui que nous entendions, c'est Costantino Mastropremiano, qui est pianofortiste depuis de nombreuses années, grand professeur en Italie, très réputé, et qui est le directeur artistique et un des artistes de ces deux journées d'ouverture du Festival des Nuits Romantiques de Verbania. Je vous propose, ma chère Dominique, et tout le monde d'ailleurs, de le retrouver immédiatement dans un nocturne de Alcan, joué sur un de ses anciens Pleyel somptueusement restauré. Thank you.
Voilà, c'était donc Costantino Mastropremiano qui jouait un piano Pleyel, comme vous avez pu l'entendre, parfaitement bien restauré.
Et la Nocturne de Valcan, c'est vraiment une jolie musique.
C'est une musique qui est un petit peu en dehors de tout, en dehors des circuits chopiniens et listiens. Il y a vraiment une belle atmosphère. Alors, en contrepoint, puisque nous sommes tout de même dans le fabuleux monde des archives sonores, je vous propose d'écouter un artiste du 19e siècle jouant son piano du 19e siècle. C'est un Érard d'environ 1880. Et c'est évidemment le dieu du piano, Francis Planté, qui nous joue une romance de l'opus 32, la seconde, de Robert Schumann.
Alors, prise de son quand même assez différente. Hein. On est en 1928, c'est un disque Columbia, Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan, parce que nous sommes chez Francis Planté, la compagnie des disques Columbia s'est déplacée. Et il va gaillardement sur ses 91 ans, Francis Planté. Donc c'est une espèce de miracle, de capsule spatio-temporelle qui se déplace. Et Reynaldo Hahn, qui était grand ami avec Francis Planté, disait « Je ne comprends pas comment on peut jouer ce piano, tellement il était déréglé, mais c'était comme des chaussons pour Francis Planté, qui savait s'y retrouver parfaitement. » Alors je vous propose de retourner immédiatement après à Verbena, puisque vous avez vu que le piano romantique, c'est pas forcément de la guimauve, et d'entendre l'avis d'un des spectateurs qui, fort heureusement, parlait français, cher Claudio.
C'est un peu l'hasard qui a fait que je tombe dedans. Et donc voilà, et puis j'ai commencé à suivre un peu tous les concerts qu'il a organisés. La musique revit son effet d'origine. Je pense que ça serait autre chose l'entendre sur un piano moderne, donc mieux de l'entendre sur le piano de l'époque où les morceaux ont été conçus.
Merci à Claudio, merci à vous Jean-Yves Patte pour ce reportage et puis on soutient les Nuits Romantiques de Verbania dont on souhaite une deuxième édition.
Voilà, et nous retrouverons la semaine prochaine, la seconde journée avec un pianiste japonais absolument fabuleux.
Merci Jean-Yves Patte. Et pour finir ce matin, voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Joël D'Amico. C'était au début des années 2000. Nous étions en vacances dans le Périgord noir et avions décidé ce jour-là de visiter Sarlat. Il faisait très beau, la chaleur d'août avait chauffé les murs de la cité et une légère brise rafraîchissait l'air ambiant. Je choisissais des cartes postales sur le tourniquet d'une librairie quand soudain... Un air de clarinette qui s'était faufilé entre les façades moyenâgeuses me fit lever la tête, tel un chien de chasse, flairant le gibier. L'oreille aux aguets, je tentais de définir d'où venait cet air ensorcelant. Je trouvais la direction à prendre et me mis à suivre cette musique envoûtante à travers les rues de la ville, comme les rats suivirent le joueur de flûte de Hamelin jusqu'à la Vézère. J'arrivais enfin sur la place de l'église. Là, un ensemble de musiciens et de chanteurs, Ours Carpats, les ours des Carpates, terminaient ce thème, Kelipe Gagicano, qui se traduit par danse gadji. Il y avait là divers instruments, cymbalum, accordéon, violon, saxo, flûte, sitar, contrebasse, clarinette. Musiciens et chanteurs enchaînèrent avec différents thèmes. C'est alors qu'un russe, à la voix profonde, accompagné d'un violon et de l'accordéon, interpréta une chanson qui démarra lentement et s'accéléra au fil des couplets pour terminer dans un rythme endiablé devant un public enchanté. Lorsque les ours des Carpates se sont produits au théâtre de Pont-Audemer dans l'Eure, je n'ai pas laissé passer cette occasion et j'ai retrouvé cette ambiance euphorisante qui, à la fin du spectacle, a mené les spectateurs à quitter leur siège et à se retrouver dans le hall du théâtre pour danser autour des artistes. Les barrières étaient de nouveau tombées. Spectateurs et musiciens formaient une seule et même entité pour terminer dans un même élan cette soirée inoubliable. Pour illustrer le souvenir musical de Joël D'Amico, que je remercie, nous avons écouté l'une des chansons du groupe Tzigane, Ours Carpats, qu'elle évoquait. Merci à tous pour vos souvenirs musicaux. Avant de se quitter, il y a des places à gagner pour un nouveau concert d'orgue qui se déroulera lundi 27 juin à 20h à l'auditorium de la Maison de la Radio. L'organiste Thomas Monet y associera répertoire baroque et contemporain, avec d'abord Nicolas de Grigny et Jean-Sébastien Bach, puis une œuvre en création mondiale, la 5e sonate de Valérie Aubertin. Pour gagner des places pour ce concert, ralliez tout de suite la page de Fabrication Maison sur le site de France Musique, francemusique.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission réalisée avec la complicité aujourd'hui de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, d'Alexandre Billard, de José Bernès, ainsi que de Pascal Bénard et de Nicolas Depagraf pour la prise de son des contrebasses. À très vite !